Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Wine Challenge et je suis Alexandra, sa créatrice. Depuis 2018, je sillonne les villages champenois pour partager avec vous mes rencontres inspirantes avec les vigneronnes et les vignerons de Champagne. Je vous invite au cœur du terroir pour découvrir leur parcours de vie, tant professionnel que personnel, et ainsi remettre l'humain au cœur du vin. Sans plus tarder, je vous laisse donc avec le portrait vigneron de la semaine, qui nous conduit à Gier-sur-Seine, à la rencontre de Thomas Barbichon. Je lui laisse le soin de vous raconter son histoire et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Thomas.
Bonjour Alexandra.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation au micro. Je suis ravie de venir à ta rencontre pour en apprendre plus sur toi, sur le vigneron que tu es et puis sur ton parcours. Donc le plus simple, c'est de commencer en te laissant te présenter de la façon dont tu le souhaites.
Donc je suis Thomas Barbichon, vigneron à Gier-sur-Seine dans la Vallée de la Seine en Côte des Barres. Je suis installé sur un vignoble familial, donc installé à la suite d'études vitivinicoles que j'ai effectuées à Rissé et à Bar-sur-Seine. Je n'ai pas pris l'opportunité d'aller à Beaune ou à Vise. J'ai fait local. Je me suis installé après mon bac pro. Je n'ai pas fait de BTS parce que j'ai eu une opportunité d'acquérir du foncier et je ne pouvais pas à la fois être étudiant et banquier. Donc j'ai pris le choix d'acheter la vigne.
Comment tu t'es senti, toi, plus jeune par rapport au métier de vigneron que tu voyais au travers de ce que faisaient tes parents ?
C'était, je pense, une implication familiale. On est né dedans. On a toujours été dans le milieu viticole parce que à l'époque, mes parents, les clients venaient à la maison. On était imbibés du métier, totalement par inadvertance. Rien n'était forcé. Et de ce fait, on est déjà imprégné de la chose depuis notre plus jeune âge et pas de manière forcée. Mais je me suis retrouvé imprégné et naturellement, j'ai été guidé vers la vigne sans qu'on me demande mon avis. Et j'ai naturellement été dans cette direction-là, du côté vinicole et viticole.
Tu ressentais pas une quelconque pression de la part de tes parents à t'inciter à faire une école plutôt axée sur la viticulture ?
Non, absolument aucune pression. Naturellement, avec les amis locaux, on est tous un petit peu dans le milieu viticole ou agricole. Donc naturellement, on était tous un petit peu des enfants vignerons avec des activités durant les vacances scolaires ou durant certains week-ends saisonniers où on allait un petit peu tous aux vignes et c'était un petit peu naturel et mes parents ne m'ont jamais dit « il faut que tu fasses vigneron, il faut que tu deviennes vigneron absolument pour reprendre le flambeau ». J'ai une grande sœur qui n'a pas du tout choisi cette voie-ci et qui se retrouve aujourd'hui dans un métier qui n'a rien à voir et mes parents ne lui ont jamais voulu. On est trois enfants et tout le monde a fait ce qu'il a voulu sans qu'on nous force la main.
Et malgré tout, est-ce que toi tu as déjà imaginé faire autre chose quand tu étais petit ? Est-ce que tu t'étais imaginé faire un autre métier ? Est-ce que tu avais eu une envie à un moment autre que celle de vigneron ?
Alors quand on est tout gamin, on veut être footballeur ou pompier, mais le métier de vigneron, on le connaissait par l'interstice de nos parents et puis par notre regard d'enfant. Globalement, c'est plus tard que je me suis dit, finalement, j'aimais bien le métier de maraîchage, le retour aux sources, à la terre, nourrir le monde. Ça, c'est un métier que potentiellement j'aurais bien voulu faire, mais jamais un métier qui soit un petit peu déconnecté de la réalité et de la terre. Ça, j'aurais pas pu.
Donc un rapport au monde paysan qui était important pour toi dès le départ.
Ouais, je pense. On a quand même, par notre métier, une certaine notion de l'importance de la terre. Et de ce fait, on a quand même conscience de l'impact du métier qu'on doit faire et conscience de ce qui peut être fait à la terre et de l'avenir, de devenir de celle-ci. Donc je me serais pas vu ingénieur en travaux publics et à défoncer des champs pour faire des routes, ça c'est clair.
Et comment se sont passées tes études ? Est-ce que tu avais déjà une passion installée pour le vin ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure, je sais pas, de stages, d'expériences professionnelles dans le monde du vin ?
Alors sur la partie vin, j'étais pas non plus très à l'aise, on va dire, parce que j'ai pas, de par mon expérience personnelle et puis l'expérience familiale, une influence de dégustateur et de vin. Et ça s'est venu un petit peu plus tard, à la suite de rencontres d'amis vignerons et autres amis, où j'ai appris à déguster. Et on a appris à déguster et j'ai vu l'importance de ce qu'était le vin et la vinification sur le vin. Dans un premier temps, j'étais vraiment fixé sur la partie viticole, l'importance du travail à la vigne, de ce qu'on doit faire à la vigne pour avoir un produit qui doit être le plus pur possible, de façon à retranscrire au bout de 4 ou 5 ans ce qu'on apporte sur la table. La fibre vinivin, elle est apparue peu de temps après mon installation parce que le fait que je sois arrivé sur l'exploitation, mon père s'est un petit peu déchargé de certaines choses et m'a naturellement laissé libre cours à la cuverie. Et de ce fait, je me suis en quelque sorte improvisé, sans être non plus un néophyte, mais improvisé vinificateur, en sachant que je suis sur une optique de vinification très très peu interventionniste. Moi, mon optique, c'est tenir des raisins le plus matures possible et les laisser se développer et les laisser dans l'authenticité jusqu'à la fin. Et de ce fait, la vinification est plutôt assez simple parce qu'on ne fait que les accompagner.
Est-ce que ça, c'était la vision de ton père, de tes parents ou pas du tout?
Non, j'ai été assez libre des choix que j'ai faits. Le seul bémol, c'était sur les dégorgements et les dosages. Ça, c'est toujours un petit peu un sujet de discussion où moi, je voulais toujours doser moins et, parce qu'on est quand même sur une historique de clientèle particulière française jusque dans les années 2000-2010. Donc, il a fallu les accompagner sur des dosages plus faibles. Donc, c'est le seul point de divergence qui apparaissait sur les vinifs. Mais globalement, sur la vinif en elle-même, dans le cadre global, mon père n'était pas très interventionniste. Il appliquait un petit peu la recette de cuisine typique sans mettre tous les ingrédients. Là-dessus, je partais déjà avec un point positif.
Du coup, est-ce que tu considères que c'est lui qui t'a appris l'essentiel de ce que tu fais aujourd'hui ou est-ce que c'est toi qui as été chercher de nouvelles choses, de nouvelles idées, de nouvelles méthodes?
J'avais de bonnes bases de par ce qu'a fait mon père. Et puis, je me suis très vite inspiré et très vite accompagné de conseils d'autres vignerons, vinificateurs autour de chez nous, notamment la Maison Fleurie ou d'autres vignerons avec qui on a pu échanger, discuter. Et à force de dégustation et de découverte, on se dit mais comment on fait ci, comment on fait ça, et ça c'est très intéressant. Et l'échange entre les vignerons est, je pense, primordial pour emmener l'ensemble des vignerons vers la croissance qualitative.
Et est-ce que tu as appréhendé tes terroirs de la même façon quand tu as commencé à vinifier que maintenant?
De par notre historique, en fait, mon père vendait des raisins au kilo, on en vend toujours un petit peu. Mais à l'époque, on les pressait et ça partait en jus chez le négociant avec qui on travaillait. Depuis une petite dizaine d'années, ce qu'on vend est vinifié à la maison. Et de par le fait, on a eu d'étranges et très agréables surprises sur des terroirs auxquels on ne donnait pas franchement d'importance. Souvent des envers un peu argileux et on se disait « c'est pas terrible, c'est pas très mûr, ou c'est pas très ceci, c'est pas très cela ». Et de par le fait, on les envoyait systématiquement chez le négoce. Et aujourd'hui, je me retrouve à faire des cuvées, notamment le rosé de Seigné avec une parcelle sur laquelle j'aurais jamais mis un pécule parce que pour moi, c'était une parcelle qui ne pouvait pas faire de rosé de Seigné. Et à force de vinifier cette parcelle, on s'est aperçu qu'elle avait un potentiel, et notamment le potentiel de faire des vins de couleur.
Et comment tu pourrais décrire les terroirs sur lesquels tu travailles aujourd'hui?
Alors nos terroirs sont des terroirs de la Côte des Bars, mais on a en réalité sur 9 hectares 18 îlots bien distincts, avec différentes expositions, différentes altitudes, et on trame à peu près sur les 3 différents niveaux de Kimmeridgien, et ça c'est plutôt intéressant, et sur différentes expositions à différents niveaux. Donc on a la chance de pouvoir avoir une palette de terroirs assez intéressante, mais qui sont liés quand même aux terroirs locaux de Kimmeridgien calcaire et Kimmeridgien marneux. Et pour l'instant, je ne peux hélas pas jouer trop avec ça, parce que j'ai une cuverie qui date de l'époque de mon père, avec des cuves un peu importantes en volume, ce qui fait que je ne peux pas faire que du parcellaire. Mais on sent qu'il y a un potentiel intéressant, et j'ai commencé à développer un parc à fût qui me permet d'isoler certaines parcelles, et de voir ce qu'elles donnent en fût, et de sentir un petit peu les différences de terroirs. On les connaît, on les a sur le raisin, à la vigne, mais on ne les a pas forcément sur la partie vinification jusqu'au printemps. Le projet principal est de minimiser les interventions, donc de travailler avec du gravitaire, ce qu'on a la chance de pouvoir faire, et de travailler sur des contenants plus petits, justement pour isoler des pressoirs de différentes parcelles sur toute la cuverie, et faire éventuellement des vinifications un petit peu différentes sur les mêmes parcelles, sur les mêmes pressoirs, pour voir un petit peu ce qui peut être fait ou ne pas être fait. Connaître un peu les limites de chaque parcelle. Et éventuellement, je suis pas encore trop là-dessus, mais sur différents contenants, je travaille de plus en plus en fût, même si j'ai pas les locaux qui le permettent, on est des cuveries un peu sèches. Mais il y a des contenants qui m'intéressent. J'ai pas commencé à travailler là-dessus parce qu'on a des problématiques de place, mais c'est quelque chose qui va être mis en place, je l'espère, rapidement.
Et est-ce que tu avais des peurs quand tu as démarré ton projet vigneron?
Non, j'étais un peu inconscient, pas spécifiquement de peur, mais des interrogations, beaucoup d'interrogations, on en a toujours, et je pense qu'on en aura toujours, et c'est bon signe, ça veut dire qu'on s'interroge et qu'on veut essayer de changer et de faire mieux les choses. Mais pas spécifiquement de peur. Déjà, on partait pas de zéro, donc on était déjà un petit peu dans un mouvement. Les principales craintes, c'est les craintes plutôt climatiques, où aujourd'hui on travaille en bio et en biodynamie, et on n'a pas franchement le droit à l'erreur, et les années sont tellement différentes les unes des autres qu'on ne peut pas tirer de leçons d'une année antérieure parce qu'on sait pertinemment qu'on ne retrouvera jamais la même dans le futur, donc on est sans cesse dans l'adaptation, et c'est la principale crainte du métier de vigneron, je pense, aujourd'hui, ou des métiers qui travaillent la terre et qui travaillent avec la nature.
Et est-ce que tu penses, du fait des dérèglements climatiques, que le métier de vigneron restera le même?
La Champagne, elle n'est pas née dans les années 2000. elle est née il y a très longtemps. Les champagnes ont évolué, ils portent toujours le même nom. Si on prend des champagnes de négociants d'aujourd'hui, ils n'étaient pas les mêmes hier et ils ne seront pas les mêmes demain. Et pour les vignons, c'est exactement la même chose. On a un métier et on a une champagne en région qui va évoluer avec le temps, ça c'est certain. Mais elle ne va pas évoluer du jour au lendemain. Ce qui fait qu'on va avoir le temps, je l'espère, de s'adapter. Les vins et la vigne vont s'adapter. Ils n'ont pas besoin de nous pour passer les siècles. Nous, on va essayer simplement de les accompagner du mieux qu'on peut pour garder une qualité la plus optimale possible.
Et tu parlais de bio, de biodynamie. Qu'est-ce que toi, tu mets en place concrètement au domaine pour justement pallier à tous ces dérèglements qu'on connaît ?
Par rapport aux dérèglements, on essaie vraiment de s'acclimater et d'accompagner. On n'essaie pas de modifier les choses parce que de toute façon, on est face à des éléments qui nous surpassent. Mais on a quelques éléments qui nous permettent d'accompagner la vigne du mieux qu'on peut sur les sécheresses ou les excès d'humidité. Mais on ne peut qu'accompagner, on ne peut pas non plus être le docteur en médecine qui va bouleverser l'intégralité du climat pour faire ce qu'on a envie de faire. On ne pourra que s'adapter à ce que la nature nous propose et accompagner la vigne du mieux qu'on peut pour qu'elle essaie de faire un peu ce que nous on a envie. C'est une espèce de compromis entre la nature et nous-mêmes.
Et cette envie de trouver l'équilibre entre la nature et tes envies, ça c'est venu dès le départ ou est-ce que c'est venu un peu plus sur le tard, une fois que tu te sentais plus à l'aise avec ton matériel végétal ?
Bah, ça a été assez rapide, hein. Moi je suis revenu en 99, on a commencé à faire des essais, travailler en bio en 2004, on a arrêté les herbicides à partir de 2003, en 2004 on commençait à travailler, à faire des essais en bio et en biodynamie, on a la chance d'avoir la maison Fleury à côté de nous qui est une maison historique en biodynamie, donc on a pu aller y chercher les conseils, surtout que notre regretté Jean-Pierre était quand même un être d'une bonté et d'une gentillesse divine, et ce qui fait qu'il n'était pas avare de conseils. Et ça nous a fait beaucoup évoluer, beaucoup avancer très rapidement. Et en 2005, on travaillait l'intégralité du domaine en biodynamie. Même si on est encore sur une biodynamie assez légère, on ne va pas en mettre dans tous les sens. On va essayer juste de cibler, de faire en sorte que la vigne se débrouille entre guillemets par elle-même. Ressentir ce que sent la vigne et faire en sorte d'identifier sa problématique et anticiper les éventuels problèmes à venir, notamment sur les maladies ou sur des excès d'humidité ou de sécheresse. Voilà.
Et est-ce que ça a été simple pour toi d'emmener l'équipe qui était peut-être déjà en place ou une nouvelle équipe vers ce que tu espérais de la vigne, du vin ?
Alors, on avait un salarié à l'époque qui n'est plus, hélas, chez nous, qui n'a plus la possibilité de travailler et qui était chez nous depuis une vingtaine d'années. Quand je suis rentré, ça lui a fait un petit peu drôle, c'est vrai, parce qu'il y a eu quelques changements à la vigne. Mais globalement, ça s'est pas mal fait. Ils ont vite compris que c'était plus simple de mettre un petit coup de raclette sur un rond de chardon que d'avoir une pompe à dos sur le dos quand il fait 30 degrés dehors. Donc ça, là-dessus, ils ont assez vite compris. Et au final, qu'on avait quand même des résultats qui ne sont pas les résultats qu'on peut avoir en conventionnel, mais qui ne sont pas non plus à l'opposé et qui nous permettent potentiellement arriver à faire vivre une entreprise.
J'imagine que, comme tout le monde, tu as connu des échecs ou en tout cas des choses qui n'ont pas fonctionné exactement comme c'était prévu. Comment tu t'es senti dans ces périodes-là et comment tu as fait pour aller de l'avant ?
Alors les échecs, on en a eu. Parce qu'on a des éléments climatiques qui nous ont un peu perturbés au cours de certaines saisons. Et ce qui est frustrant, c'est qu'on part sur une bonne logique, une bonne dynamique, et puis qu'en quelques heures, on va se retrouver dans une dynamique totalement opposée. Et ce qui est frustrant, c'est de devoir courir derrière quelque chose, plutôt que d'être devant et de regarder dans le rétroviseur et se dire, bah là, il y a une petite tendance au milieu, on la sent venir, machin. Et on a eu beaucoup d'éléments climatiques ces dernières années avec des orages de grêle, de la gelée, des événements climatiques avec beaucoup de pluie, des choses comme ça, mais ouais, ce qui est moi le plus frustrant, c'est les événements liés aux orages de grêle, qu'on a quand même assez fréquemment par chez nous, où on sait pertinemment qu'on va galérer et qu'on a beau faire ce qu'on veut, c'est très compliqué à rattraper derrière.
Quand tu fais face à une période de doute comme ça, par exemple, j'imagine que le fait de pouvoir te reposer sur le collectif est aussi important. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, de faire partie du groupe des Pieds des Vins ?
On a tous des terroirs, des méthodes de travail qui sont un peu différentes les unes des autres et ça nous permet de se confronter à des choses qu'on n'aurait pas osé faire tout seul. Et là-dessus, c'est super intéressant et ça m'a franchement permis de m'ouvrir à certaines choses pour lesquelles je ne serais pas encore aujourd'hui à même de proposer et d'essayer. Et ça, pour le coup, c'est plutôt très intéressant.
Donc finalement, ça t'a donné peut-être plus d'audace dans ce que tu fais ?
Ouais, carrément. Même si je suis quelqu'un de très prudent, j'ai toujours un petit peu la trouille d'aller plus loin que ce que je ne peux le faire. Mais ouais, ce groupe m'a permis clairement d'être un peu plus audacieux sur les schémas de travail que j'aurais dû mettre en place depuis longtemps.
Et comment tu pourrais définir le groupe des Pieds des Vins à quelqu'un qui ne le connaît pas du tout ?
Des Pieds des Vins, Il y a une petite phrase qui revient souvent en réunion, c'est « décaler mes classes ».
Quel est ton rapport au temps qui passe, toi ?
Le rapport au temps qui passe, eh bien, écoute, le temps passe vite. On a l'impression de ne pas avancer parce que tous les ans, le métier est différent. Donc on a l'impression de commencer une première année tous les ans. Ça, c'est très intéressant par contre dans le métier. Donc on a l'impression de jamais revenir sur un acquis et ça, c'est super intéressant. Ça permet d'avoir la notion que le temps ne passe pas vite. Mais en fait, quand on regarde dans le rétroviseur, le temps passe quand même relativement vite. Ça fait quand même 25 ans que je suis arrivé sur le domaine. Et il me reste encore quelques vinifs à faire, mais un métier de vigneron, c'est quand même assez peu de vinifs. On n'est pas un chef de cuisine qui va créer une carte et qui va devoir s'améliorer au fur et à mesure des services jour après jour. Nous, notre carte, on en sert une par an, c'est la vendange, et donc on se doit de la faire la mieux possible. Et on en a, on va dire, une trentaine, une quarantaine à faire au maximum. Donc une fois qu'on a raté une carte, il faut vite se remettre sur la prochaine parce que on a un an qui se passe entre les deux. Donc il faut vraiment être rapide et prudent et savoir rebondir derrière.
Et est-ce que tu envisages, toi, ta propre transmission d'une façon ou d'une autre ?
J'ai deux filles qui grandissent aussi, c'est là qu'on s'aperçoit que le temps passe vite. Mais la transmission aujourd'hui, elle se fait principalement par le savoir-faire. Savoir-faire que j'essaie de transmettre à mes salariés pour me permettre d'être un petit peu plus décontracté. Essayer de faire en sorte de ne pas avoir tout sur deux épaules. Et la transmission, pour le moment, elle se fait uniquement au sein de l'entreprise sur du savoir-faire et sur de l'échange avec des vignerons pour transmettre des savoirs et en acquérir. La transmission vers le futur vis-à-vis de la transmission familiale, elle n'est pas encore présente. Moi, je conseille à mes filles de faire plein de choses avant de potentiellement revenir. Elles ont commencé un petit peu à travailler durant les vacances depuis quelques années chez nous et je leur fais apprendre les bases du métier, c'est-à-dire le métier le plus ingrat possible que l'on puisse avoir dans notre panel de métiers qu'on peut avoir, de façon à voir si elles sont vraiment motivées. Et si elles tiennent bon, on verra plus tard. Mais pour l'instant, la transmission, elle est vraiment intra-entreprise.
Et quelle est la dernière chose que tu aies faite pour la première fois ? La dernière chose que tu aies apprise ?
C'est une très bonne question. Eh ben, j'ai fait une formation que je voulais faire depuis plusieurs années, mais que j'avais pas jamais pu faire avec Claude Réau. Et justement, c'est une personne qui paraît un petit peu ésotérique, mais en fait qui vous fait comprendre très simplement que justement la biodynamie est partout. Et que tout s'explique, et que en fait c'est assez simple au final. Et ça, je le pensais, je le percevais, mais là, on a appris lors de cette formation avec Claude qu'il y a tellement d'exemples partout, dans tout, que en fait c'est une évidence, quoi. Et ça, je l'ai appris concrètement il n'y a pas très longtemps, je le percevais, mais je n'avais pas l'explication concrète à ce que c'était. Donc là, j'ai appris quelque chose qui va me faire évoluer.
Et si tu pouvais exprimer ta vision de la Champagne à quelqu'un qui n'est pas du tout familier de cette région, qu'est-ce que tu pourrais lui dire ?
Que la Champagne, c'est un nom, c'est une appellation, elle est multiple et diverse, aussi bien sur la taille et la diversité des exploitations et des maisons qui la mettent en avant que sur les terroirs et que les différentes méthodes de travail. Et donc c'est un peu la problématique et l'avantage de la Champagne, c'est qu'on se cache derrière un nom, mais il faut que chacun montre sa diversité et sa particularité. Et ça, c'est ce qu'il faut expliquer aux gens qui ne pensent qu'un Champagne, c'est un Champagne. Non, un Champagne, c'est des vins de Champagne et c'est une diversité infinie de vins de Champagne de par la climatologie, la géographie et de tous les éléments et de tous les personnages qui la composent.
Et avant de conclure, qu'est-ce que tu pourrais souffler à l'oreille du jeune Thomas qui démarrait seulement ses études en viticulture ?
N'écoute pas tes parents, apprends, fais des erreurs, plus d'erreurs et tu verras que tu avanceras beaucoup plus vite.
Merci beaucoup pour ton temps.
Merci à toi.
Et puis bonne continuation et à bientôt.
Merci.
Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. Vous pouvez retrouver dès maintenant toutes les informations et les références de cet épisode sur le site wine-challenge.com, mais également sur le compte Instagram du podcast @winechallengepodcast. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une nouvelle conversation. D'ici là, je compte sur vous pour partager vos épisodes préférés auprès de tous les amoureux du vin. Merci à toutes et à tous. Et à très vite.